Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Binge Audio présente.
Salut, c'est Thomas Rozek. Plus que jamais, en cette année 2021, l'extrême droite fait étalage du paradoxe permanent sur lequel s'est construit son histoire, avec, en miroir, ses deux visages. Le premier, qui se veut policé et sérieux, qui est celui qu'elle présente à ses potentiels électeurs et qui est aujourd'hui brandi en ligne éditoriale chez certains médias ou chez certains commentateurs professionnels de l'actualité, une chose impensable il y a encore quelques années. Le second visage, c'est sa face cachée, celle de son goût sans cesse renouvelé pour le coup de poing, la clandestinité, voire l'action violente, le meurtre, l'attentat. Cette réalité, on l'a par exemple très bien perçue début octobre avec la mise au jour par la police de l'existence d'un projet de tuerie de masse fomenté par un admirateur d'Adolf Hitler. Ces histoires se multiplient dans la presse avec le constat que la tension et la tentation de la violence augmentent dans les groupes de droite radicale. Il y a un an, on s'était interrogé sur ces nébuleuses très actives et je vous propose aujourd'hui de réécouter l'épisode qu'on avait tiré à l'époque de ces questionnements. Bienvenue dans Programme B.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Il y a forcément eu... une amicale d'anciens nazis ou un club, une association.
Et l'an dernier, donc, j'avais évoqué ces sujets avec mon confrère Pierre Plotu. Il est journaliste indépendant, notamment pour Slate ou Libération. Il signe souvent avec son camarade Maxime Massé de passionnants papiers sur ces zones infra de l'ultra-droite. Et j'avais commencé par lui demander à quel point l'idée d'une forme de grand soir nationaliste, de guerre ou d'insurrection armée d'extrême droite, était répandue dans ces milieux.
L'idée du grand soir, elle est commune à beaucoup de groupes. Beaucoup de groupuscules surtout.
Ouais.
Cette notion du coup d'État, de la prise du pouvoir, de beaucoup de choses, il suffit de voir que février 36 est toujours un fantasme et toujours quelque chose de célébré dans la mouvance, comme la fois où le pouvoir a failli être pris. Il y a globalement quand même deux types de groupes. Ceux qui essayent, typiquement génération identitaire, qui aime à se décrire en Greenpeace de droite. Alors, disons plutôt, dans ce cas-là, en activiste du racialisme. Génération identitaire cherche à convaincre les cœurs et les esprits à être le fer de lance, la petite graine qui, plus tard, donnera les germes d'une prise de conscience généralisée qui permettra l'accession au pouvoir de ses idées.
C'est plus du lobbying assez classique, finalement.
C'est ça, c'est quelque chose qui a été volé à l'extrême-gauche, à Gramsci, qui est justement le fait, cet entrisme, convaincre. Voilà. Après, il y a d'autres groupes, effectivement, qui rêvent d'une prise de pouvoir par la force. Et à l'intérieur de ces groupes, alors il y a quelques groupes très classiques, mais qui n'en font plus autant état qu'auparavant. Pourquoi ? Parce qu'il y a les autorités ont vraiment sévi à raison. En tout cas, la loi a été appliquée sur ce type de discours. C'est quelque chose qui est toujours fantasmé et rêvé du groupe, par exemple, comme les nationalistes, résucés du PNF, héritiers de l'œuvre française d'Ivan Benedetti et de feu Pierre Sidos, mort très récemment. Mais il y a aussi de plus en plus, et je pense que ça, c'est plus une nouvelle résurgence, une nouveauté, entre guillemets, d'un fantasme, d'un effondrement qui vient, et donc d'une préparation individuelle qui mêle des militants, ou en tout cas des convaincus, qui vont chercher dans le survivalisme des éléments, sans que ça rende le survivalisme ni d'extrême droite, ni conspirationniste, ni quoi que ce soit. Et à l'intérieur, commence à apparaître... Street Press a fait une très bonne enquête sur un groupe qui s'appelle Vengeance Patriote, très récemment, qui est la résultante de cette nouvelle tendance. C'est-à-dire que c'est un groupe qui cherche à se structurer autour de cet effondrement qui vient. Ils attendent l'effondrement, puisqu'il vient, il est imminent. Et à côté de ça, le jour où ça surviendra, il faudra être prêt, organisé, entraîné, suffisamment nombreux pour être en mesure de prendre le pouvoir. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui, encore une fois, on en est vraiment aux prémices. Quelle est la pensée politique derrière, dans le cas spécifique de Vengeance Patriote? J'ai envie de dire qu'elle est très éthérée. Le groupe lui-même dit accueillir des gens de toutes les mouvances, du néo-nazi au simple patriote, disons ça comme ça. En tout cas, c'est le mot qu'ils utilisent. La notion n'est pas tant celle de l'idéologie politique. On se battra après pour savoir qui a raison, entre guillemets. Mais c'est plus celle, en fait, de la prise du pouvoir par les vrais Français. Pour beaucoup, mais pas tous, ça signifie la race blanche, la restauration du pouvoir, de la primauté du pouvoir de la race blanche sur son aire géographique dédiée, qui est notamment la France. Il y a encore une autre, je ne sais pas si c'est la dernière, mais il y a encore une autre typologie de militants, de convaincus, qui, eux, fantasment une guerre raciale. Alors, cette guerre raciale, pour certains, elle est déjà en cours. Pour d'autres, elle vient. Elle est inévitable et c'est effectivement l'affrontement communautaire. C'est celle typiquement que craignent les services de renseignement. Pourquoi ? Parce que c'est l'autre bord de la pièce du terrorisme. Aujourd'hui, il y a un terrorisme djihadiste qui a déclaré la guerre à la France, disons les choses comme elles sont, et en réaction... Les services craignent depuis un certain nombre d'années, Calvar l'a dit en 2016, que se monte une autre tendance opposée, nationaliste, raciste, qui prenne les armes et qui pousse à l'affrontement communautaire. C'est une tentation qui est réelle. Aujourd'hui, dans la communication d'énormément de groupes, des plus radicaux des radicaux, au moins radicaux des radicaux, tous parlent des autres qui nous mèneraient une guerre, qui nous aurait déclaré la guerre et qui nous attaquerait parce que nous sommes ce que nous sommes. Et donc, il faut attaquer parce qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est la définition première, quand même, du racisme, le rejet de l'autre. Et ça, c'est une mouvance toutes les mouvances décrites se recoupent toutes les unes des autres. Il n'y a pas de groupe qui est fer de lance de l'un ou de l'autre. On va retrouver, en fonction des différents militants, chacun à leur échelon, une pincée de ceci, une poignée de cela. Mais effectivement, cette préoccupation première de la race, et donc de ces résultantes que sont la couleur de peau, la nationalité de sang, mais aussi la religion, c'est quelque chose qui se développe et c'est, à mon sens en tout cas, un sujet qui est important, notamment parce que pendant longtemps, la religion a été un vrai casus belli. La religion catholique, la chrétienté, a été un vrai casus belli entre beaucoup de ces mouvances qui, du coup, ne pouvaient pas s'entendre. Un paganiste néo-nazi ne pouvait pas s'entendre avec un pétainiste fondamentalement convaincu du fait que les Français sont catholiques. Et c'est quelque chose qui est en train de se dépasser. Il y a une nouvelle mouvance nationale catholique, donc qui est franco, typiquement, a été qualifié par les historiens de national catholique. C'est une forme de fascisme qui repose énormément sur la religion. C'était Civitas en France, historiquement. Et il y a une nouvelle mouvance qui est en train de naître. Je pense typiquement à l'Alvarium, à Angers, Jeunesse Saint-Roch à Montpellier, un certain nombre de groupes comme ça, qui sont des groupuscules, hein. On parle de quelques dizaines de membres à chaque fois, voire même parfois moins, mais qui, de plus en plus, ont des notions identitaires, idéologiquement, qui incluent la religion comme une des briques premières de qu'est-ce que être français aujourd'hui. Un vrai français, selon eux, en tout cas.
Une des choses qui m'intrigue dans tout ça, c'est le goût pour la clandestinité. J'ai l'impression que c'est, pour le coup... quelque chose qui ne bouge pas avec le temps, ce besoin de faire les choses de manière cachée, d'avoir des groupes WhatsApp où on échange des trucs, enfin, cette envie d'être caché.
Telegram est beaucoup utilisé, c'est le gros outil aujourd'hui qui permet à la fois de toucher du monde, de les toucher dans un autre cadre que celui des réseaux sociaux, qui est un cadre semi-privé, même si tout est ouvert, hein, et en même temps qui permet de s'adresser d'une manière, un peu comme dans une boucle WhatsApp, justement, beaucoup plus proche de son auditoire. Un certain nombre de grandes figures de l'extrême droite aujourd'hui, par exemple Damien Rieu, qui en est la tête de pont pour ne pas le citer, donc attaché, enfin collaborateur de l'eurodéputé RN Philippe Olivier au Parlement européen, donc, et ancien identitaire, créateur. Co-fondateur, pardon, avec un certain nombre d'autres de Génération Identitaire, qui est donc le mouvement de jeunesse à la base du Bloc Identitaire, lui-même héritier de Unité Radicale, groupe interdit, puisque Maxime Brunnery, qui a essayé d'assassiner Jacques Chirac le 14 juillet sur les Champs-Élysées, en était militant. Donc voilà, pour situer un petit peu qui est Génération Identitaire, quelle est sa filiation. Damien Rieu se sert énormément de Telegram pour relancer, créer sa communauté, l'animer et s'adresser à elle d'une manière extrêmement plus intime que c'est fait sur les réseaux sociaux. Ça crée une communauté d'esprit, de fait, d'action militante, au sens propre, une nouvelle forme de militantisme qui est totalement dématérialisée. Après, le goût pour la clandestinité, il y a deux choses. Premièrement, il est, entre guillemets, un passage obligé quand on veut se donner le grand frisson, du militantisme quand on est jeune. Qui est quand même un des marqueurs principaux de cette mouvance et de toutes les mouvances radicales en général. Et également, le racisme est toujours interdit par la loi. La haine, l'appel à la haine est interdit par la loi. Et à un moment donné, exprimer un certain nombre d'idées publiquement est condamnable, tombe sous le coup de la loi. Alors, il y a presque eu une... L'État a presque délégué cette tâche aux réseaux sociaux. Maintenant, on regarde si une chaîne est fermée, ouverte, censurée, modérée, etc. Mais il y a aussi des procès. Et à un moment donné, construire des outils qui permettent, un, de ne pas sortir du cadre privé, parce que l'appel à la haine, c'est bien quelque chose qui doit être fait dans un cadre public ou semi-public. C'est une appréciation après qui revient au juge, mais c'est un des éléments, l'incitation à la haine. Et donc, cette clandestinité est quand même indispensable pour exprimer un certain nombre d'idées.
Sur la question des armes, sans tomber dans le fantasme ou dans l'angoisse, il y a quand même une inquiétude qui est légitime, notamment du fait de l'organisation de ces groupes. C'est quelque chose sur lequel tu as enquêté, notamment pour Libération.
Oui, alors déjà, la question des armes en France, il faut sortir du fantasme, du fait qu'il n'y a pas d'armes en France. Il y a des millions, les estimations parlent de plusieurs millions d'armes en circulation en France, de manière légale. Les armes en France sont principalement d'accès légal. C'est très facile aujourd'hui d'aller, et c'est un vrai sport, d'aller sur un champ de tir, prendre une licence de tir, de s'entraîner au tir. Et au bout de quelques mois, généralement 6 mois, peut-être un peu plus, ça dépend de l'assiduité, des capacités, etc., on peut obtenir l'autorisation, le permis de détenir une arme de catégorie B. Une arme de catégorie B, c'est quoi? Typiquement, c'est une Kalachnikov. C'est un Uzi. C'est un M16. C'est un pistolet comme ceux qu'ont les policiers. Ces armes ne sont pas sont spécifiques en ce sens qu'elles ne peuvent pas tirer en rafale. Notamment, par exemple, ce serait une Kalachnikov qui tirera balle par balle, mais ça reste une vraie Kalachnikov qui tire les mêmes balles que sur n'importe quel théâtre d'opération. Moi, je suis allé sur un champ de tir assez récemment dans lequel quelqu'un tirait avec un M1 Garand à verrou. Donc un vieux fusil de la Seconde Guerre mondiale en bois très lourd qui tirait du calibre 308 Winchester. C'est du gros calibre, ça fait des gros booms quand ça tire, on le sent dans sa cage thoracique. Et un autre monsieur à côté, charmant au demeurant, hein, tirait lui avec un G36. Donc les G36, c'est le nouveau FAMAS de l'armée française. C'est la nouvelle arme de dotation de l'armée française qu'il détenait légalement. Donc... Sans parler, à côté de tout ça, de tous les fusils de chasse de calibre 12. Je sais pas si vous avez déjà vu un fusil de chasse, c'est une cartouche de chasse, mais enfin, ça fait des trous, quoi. On parle de vrais fusils. Ça, c'est une arme de catégorie C, pour laquelle il suffit d'avoir sa licence sans l'autorisation supplémentaire, pour pouvoir l'acheter et la détenir. Et acheter les munitions, etc. On peut détenir jusqu'à une douzaine d'armes, ce me semble, je suis pas un spécialiste. Mais voilà, donc les armes en France... c'est quelque chose qui existe et on est même un des pays développés, entre guillemets, qui a un ratio armes par habitant le plus élevé. À partir de là, la tentation pour les armes, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas spécifique à l'extrême droite, mais qu'effectivement, il y a dans cette logique de préparation à l'effondrement qui vient, dans cette logique de préparation à l'affrontement qui vient également, ou qui serait en cours, il y a une vraie tentation pour les armes à l'extrême droite. pour Libération, Maxime Massé et moi-même avons enquêté sur un club de tir basé en Bretagne qui s'appelle Herminabil, qui n'a pas de local, pas de champ de tir, dont le président est quelqu'un connu pour ses... En tout cas, les témoignages qu'on a recueillis, qui est quelqu'un qui est connu pour sa haine des migrants, je cite le témoignage de quelqu'un qu'il connaît très bien, qui l'a fréquenté. On a appelé la Fédération française, dont le président nous a répondu qu'ils étaient effectivement inquiets de ce club de tir précisément. Ils veulent pas de ça chez eux, en gros. Hein. Et ils sont en train de voir les recours pour interdire ce club. Ce club, donc, qui n'existe que sur Internet, hein, qui a une page Facebook et un site Internet, on peut y adhérer en ligne de toute la France, sans aucune exigence de quoi que ce soit de la part du club. À part le fait de payer sa licence, qui est un prix plus que modique, on est de l'ordre de 90 euros de mémoire, et du coup, on obtient les documents, on obtient sa licence, enfin, eux font, après font la demande à la fédération, faisaient la demande à la fédération a suspendu leur pouvoir de délivrer des licences. Et à partir de là, on avait une autorisation de détention d'armes de catégorie C, et donc on pouvait acheter un fusil de chasse, une 22 long rifle, etc., etc. Et après, en allant au champ de tir local, en remplissant alors ce qu'on appelait avant le carnet de tir, mais en fait en obtenant un avis favorable, en faisant les démarches nécessaires, on demandait au club Herminabil un avis favorable, ce qui permettait de demander à la préfecture, qui en délivre énormément, il y a assez peu de contrôles, il faut être honnête, ou en tout cas la question se pose sur ces contrôles, d'obtenir une autorisation de détention d'armes de catégorie B jusqu'à 5 ans, et donc de pouvoir acheter des armes de bien plus gros calibre.
Ce club, il a une vocation politique, l'idée derrière, c'est d'armer des gens.
Herminabil a fait sa... Alors, est très prudent dans sa communication. Le visuel du groupe, c'est une hermine, un drapeau breton. Donc l'hermine blanche est un symbole breton. Un drapeau breton, etc. Rien de particulier. Par contre, moi, mon attention, elle a été attirée notamment par... sur la crosse du fusil, il y a deux haches entrelacées. Qui est effectivement quelque chose qui est très courant à l'extrême droite, sont les initiales de Heil Hitler, mais c'est aussi quelque chose qui revient énormément avec le 88. 88 qui fait aussi référence à David Lane, mais voilà, c'est quelque chose un imaginaire très présent dans l'extrême droite, et surtout, ce club a fait sa publicité sur Telegram, sur un canal qui se présente sous le nom des vilains fachos. Les initiales, c'est LVF. LVF, c'est la Légion des volontaires français. Ce sont les Français qui étaient volontaires pour aller se battre avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qui, sur ce canal, les administrateurs faisaient la publicité d'Herminabil et donnaient le contact de la personne à contacter dans les commentaires de la chaîne. Un internaute ou un utilisateur de Telegram a publié des captures d'écran d'échanges avec le compte Herminabil, qui commence, et c'est assez exceptionnel, par Shalom Goy, de mémoire, avec un sticker d'Adolf Hitler. Herminabil répond, Shalom, qu'est-ce que tu veux ? Sans être ni choqué de cette entrée en matière, qui est quand même spéciale, et qui était au courant du fait que sa publicité était faite sur le canal Les Vilains Fachos, au canal estampillé d'extrême droite, hein, dans lequel on fait l'apologie du racisme, du nazisme, et y pullulent les appels à s'armer en vue de la guerre raciale, ou à se préparer en vue de la guerre raciale, voire même les appels à la guerre raciale.
Donc il n'y a pas d'annonce officielle du fait que ce groupe existe uniquement pour armer les gens, mais il y a un faisceau de présomption qui laisse penser que c'est le cas.
Un ancien président de club de tir, qu'on a pu contacter dans le cadre de cette enquête pour Libération, nous a confié que, à son sens, à lui, personnellement, faut-il en tirer des généralités, je pense qu'il faut rester prudent, mais à son sens, à lui, il a vu de plus en plus arriver récemment des gens qui venaient et qui s'en cachaient pas, uniquement pour pouvoir acheter une arme. Pour de la légitime défense ou autre. Lui nous dit, et on a tendance à le croire, que c'était des gens qu'il avait tendance à refouler. Un peu comme il existe aussi des gens qui viennent, qui portent tous les stigmates, entre guillemets, de ce qu'on de ce qui pourrait les associer à l'islam radical, qui ont aussi tendance à être conduits gentiment vers la sortie. Mais voilà, pour lui, il y a effectivement cette tendance qui est plutôt neuve et en tout cas dont il s'inquiète.
Et depuis l'an dernier et cet épisode, le club de tir en question a changé de président et remplacé tout le bureau de son association, mais pas le logo avec ses deux haches entrecroisées avec la crosse sur le fusil qu'on évoquait plus tôt. Merci à Pierre Pleutu pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Elisa Grenet. Tous nos prochains épisodes, nos très 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 nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.